Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, vous allez entendre les versets 62 à 64 de la Sainte Sourate Younes. Notre frère Aziz vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ces versets promettent le bonheur aux amis de Dieu, ici-bas, tout comme dans l'au-delà.
A'oudhou billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم.
Quant aux amis de Dieu, n'est-ce pas? Point de crainte sur eux en vérité, et point ne seront affligés, qui croient et qui restent pieux. Il y a pour eux bonne annonce en cette vie, tout comme en la dernière. Pas de modification aux paroles de Dieu, voilà l'énorme succès.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en ce vendredi 30 juin 2023. Nous allons vous présenter tout de suite le journal suivi d'un commentaire politique. L'Iran poursuit le Canada devant le plus haut tribunal de l'ONU pour violation de l'immunité de Téhéran. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous. Au sommaire de ce journal, les condamnations affluent pour la profanation mercredi du Coran dans la capitale suédoise. L'Iran salue la reprise et le développement des relations avec l'Égypte et le Maroc. Et puis le chargé d'affaires iranien à Londres évoque la possibilité de parvenir à un accord sur la levée partielle des sanctions anti-iraniennes. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Les condamnations affluent pour la profanation mercredi du Coran dans la capitale suédoise après qu'un homme a brûlé le livre saint devant une mosquée. Le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré que permettre des insultes aux valeurs islamiques et au saint Coran est inacceptable sous quelque justification que ce soit. Réagissant à cette énième offense, le ministère iranien des Affaires étrangères a convoqué le chargé d'affaires suédois à Téhéran. Il a été perpétré par un citoyen extrémiste irakien vivant en Suède lors d'une manifestation autorisée et soutenue par la police. Qualifiant d'inacceptable que la Suède autorise le blasphème et la profanation du Saint-Coran, le ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran s'est exprimé en ces termes. La démocratie et la liberté ne consistent pas à donner libre cours à de tels comportements qui ne font qu'encourager le terrorisme et l'extrémisme. Nombreux pays musulmans ont également dénoncé l'acte inacceptable. Le gouvernement irakien a également condamné la profanation, appelant Stockholm à extrader l'homme. Le dignitaire religieux chiite irakien, le grand ayatollah Ali Sistani, a envoyé une lettre au chef de l'ONU dénonçant la profanation. L'honorable ayatollah Sistani a déclaré que la liberté d'expression ne peut pas être une excuse pour des actes aussi honteux. Il a appelé l'ONU à aider à mettre fin à de telles mesures. La Turquie a également condamné la profanation du Saint-Coran. Tout en condamnant la profanation du Saint-Coran, la Jordanie et les Émirats arabes unis ont convoqué les ambassadeurs suédois à Abu Dhabi et à Amman, avant de lui notifier que l'instrumentalisation de la liberté d'expression ne justifie pas un acte aussi odieux. À Beyrouth, le ministère libanais des Affaires étrangères et le mouvement de la résistance Hezbollah ont condamné l'acte sacrilège. Pendant ce temps, le gouvernement yéménite a déclaré que le ciblage des sanctuaires islamiques était encouragé par le lobby israélien qui domine l'Europe. Ailleurs, au Maroc, le gouvernement a dénoncé la profanation et a rappelé son ambassadeur en Suède pour une durée indéterminée. La Jordanie et l'Arabie saoudite ont également exprimé de véhémentes condamnations. L'Organisation de la coopération islamique, OCI, a également condamné l'acte blasphématoire. Publiant un communiqué jeudi mettant en garde contre la gravité de ces actions qui contredisent les efforts mondiaux pour répandre la tolérance et la modération. Hier jeudi, des manifestants irakiens se sont rassemblés devant l'ambassade de Suède à Bagdad, la capitale, pour protester contre la profanation du Saint-Coran. Les manifestants ont brièvement fait irruption dans l'ambassade de Suède à Bagdad, restant à l'intérieur pendant environ 15 minutes. Ils sont partis pacifiquement après le déploiement des forces de sécurité. Des gens d'autres pays ont également protesté. Les Iraniens participant aux prières de la Eid al-Adha ont également condamné la profanation du Saint-Coran en Suède. La police suédoise a annoncé avoir délivré un permis de manifestation dont l'organisateur prévoyait de brûler à l'occasion de la Eid al-Adha un exemplaire du Saint-Coran devant la principale mosquée de Stockholm. Un Irakien de 37 ans, ayant fui son pays pour la Suède, a piétiné le Coran à plusieurs reprises avant d'y glisser des lamelles de bacon et d'en brûler quelques pages, selon les journalistes de l'AFP sur place. C'est fou, c'est absolument insensé, ce n'est que de la haine qui se cache derrière les concepts de démocratie et de la liberté, a réagi Noah Omran, artiste de 32 ans, venu d'assister à la scène. Le ministre iranien des Affaires étrangères a appelé les pays islamiques à s'unir et à contrer les complots malveillants des ennemis et du régime israélien visant à déstabiliser le monde musulman. S'adressant aux diplomates musulmans en poste à Téhéran et à l'occasion de la Eid al-Adha, Hossein Amir Abdollahian a déclaré que les adversaires de l'Oumma musulmane avaient élaboré des plans pour diviser les nations musulmanes. Le très haut diplomate iranien s'attarde à cette occasion au cas du Soudan pour dire que le pays est maintenant la cible de ce complot. Cependant, le ministre iranien a déclaré que les ennemis n'avaient pas réussi à atteindre cet objectif dans les conflits en Afghanistan, en Syrie et en Irak. Toujours dans ses remarques, Amir Abdollahian a exprimé sa satisfaction quant au rétablissement des liens de l'Iran avec l'Arabie saoudite. Il a déclaré que l'Iran se félicitait de la normalisation de ses relations avec d'autres pays régionaux et musulmans, dont l'Égypte et le Maroc. Cependant, le ministre iranien a déclaré que les ennemis n'avaient pas réussi à atteindre cet objectif dans les conflits en Afghanistan, en Syrie et en Irak. Le président iranien et le premier ministre pakistanais appellent à l'élargissement des relations bilatérales. Le bureau du premier ministre pakistanais a déclaré que le président iranien et le premier ministre pakistanais, lors d'une conversation téléphonique à l'occasion de la Eid al-Adha, avaient convenu de renforcer la coopération et les relations mutuelles dans tous les domaines. Selon le bureau des relations publiques du premier ministre pakistanais à Islamabad, le premier ministre Mohammad Shehbaz Sharif, lors d'une conversation téléphonique avec le président iranien Ebrahim Raisi, a félicité le gouvernement et le peuple iranien à l'occasion de la Eid al-Adha jeudi. Toujours selon la même source, les deux hommes se sont félicités et ont souhaité prospérité et bien-être au peuple iranien et pakistanais. Ils ont passé en revue les derniers développements liés aux relations et coopérations bilatérales. Shehbaz Sharif a appelé l'événement historique de l'ouverture du marché frontalier de Mand Pishin, soulignant qu'il est déterminé à coopérer avec le gouvernement iranien pour aider au bien-être et à la prospérité des deux nations voisines. En plus, Raisi et Shehbaz Sharif ont réitéré sur la nécessité de donner suite aux contacts et une coopération régulière de haut niveau pour l'amélioration des liens entre Téhéran et Islamabad. Le chargé d'affaires iranien à Londres évoque la possibilité de parvenir à un accord sur la levée partielle des sanctions. Le chargé d'affaires de l'ambassade de la République islamique d'Iran à Londres, Mehdi Hosseini Matin, a évoqué le processus de négociation indirecte entre Téhéran et Washington, évoquant la possibilité de parvenir à un accord sur la levée partielle des sanctions et l'échange des prisonniers. Hosseini Matin a déclaré dans une interview à USA Today, « nous sommes prudemment optimistes que cet accord sera conclu dans un proche avenir. Il a expliqué que tout accord nécessite un texte objectif sur la table pour être discuté et signé. Le diplomate iranien a ajouté que les négociations entre l'Iran et les États-Unis dans ce domaine se déroulent indirectement à travers la médiation d'Oman. Il a déclaré que le Qatar et les Émirats arabes unis étaient également impliqués dans la facilitation des négociations. Le camp du groupuscule terroriste OMK en Albanie fait toujours l'objet de la perquisition policière. Selon les médias, la police albanaise a fait de nouveau une descente dans le camp du groupuscule terroriste et a recueilli plus d'informations sur ses activités déstabilisatrices. Selon les médias iraniens, la dernière opération a eu lieu après que la police a traité les informations obtenues des serveurs de l'OMK saisis la semaine dernière. Selon la police, le groupe a caché des informations sensibles. Par ailleurs, les médias locaux rapportent que les forces de police sont stationnées à l'entrée du camp et contrôlent tous les véhicules qui sortent. Les forces de police ont mené leur première opération la semaine dernière lorsqu'elles sont entrées dans le camp sur ordre du tribunal antiterroriste albanais dans le cadre d'une enquête sur les activités illégales du groupe basé dans le pays. Des membres de l'OMK se sont violemment heurtés à la police et lui ont barré la route. Les affrontements ont fait plusieurs blessés parmi les éléments de l'OMK et un mort. Le groupe est une organisation terroriste notoire qui a mené de nombreux assassinats et attentats à la bombe contre des responsables et des civils iraniens depuis l'avènement de la révolution islamique en 1979 en Iran. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Reste avec nous. Merci. L'Iran poursuit le Canada devant le plus haut tribunal de l'ONU pour violation de l'immunité de Téhéran. Le gouvernement de la République islamique d'Iran a intenté une action en justice contre le gouvernement du Canada devant la Cour internationale de justice en tant que principal pilier judiciaire des Nations unies en raison de la violation de l'immunité internationale du gouvernement iranien. L'Iran a engagé des poursuites judiciaires devant le plus haut tribunal de l'ONU contre le Canada pour avoir violé l'immunité internationale du gouvernement iranien en désignant le pays comme sponsor du terrorisme sous des allégations fausses et injustifiées. Le dossier de l'Iran devant le tribunal exige également une compensation du Canada. Les violations des droits de l'Iran ont commencé en 2012 lorsqu'Ottawa a répertorié le pays comme sponsor du terrorisme au nom des accusations fausses et injustifiées, puis a saisi des biens et des avoirs appartenant au gouvernement iranien. Le communiqué indique que le Canada a poursuivi son mauvais processus malgré les protestations répétées de l'Iran. L'Iran, par cette décision, a une fois de plus montré son attachement à sa position de principe sur le règlement pacifique des différends et son engagement envers la primauté du droit concernant les relations entre les pays, indique le communiqué, exprimant l'espoir que le Canada changera sa politique politisée et cessera de violer ses obligations. Téhéran a déclaré que le Canada avait violé le droit international par des décisions illégales ordonnant la remise des actifs iraniens aux victimes de diverses attaques que le Canada impute à des groupes soutenus par l'Iran. Le tribunal, basé à La Haye, a confirmé dans un communiqué que l'Iran avait lancé mardi des poursuites judiciaires contre le Canada. La déclaration du gouvernement iranien a également rejeté les fréquentes accusations du Canada, selon lesquelles l'Iran soutient le terrorisme et viole les droits humains. La déclaration indique que le Canada a systématiquement violé les droits de l'homme, a soutenu les politiques étrangères dominatrices et interventionnistes des États-Unis et a agi en tant que complice dans les crimes inhumains perpétrés par le régime israélien en Palestine et en Asie du Sud-Ouest. Il ne faut pas oublier que le gouvernement canadien a dans son bilan noir anti-droits de l'homme le génocide de centaines d'enfants autochtones dans les écoles obligatoires et l'enterrement massif de ces enfants innocents, a-t-il déclaré, faisant référence aux découvertes récentes de centaines de tombes d'enfants autochtones dans d'anciens pensionnats obligatoires gérés par le gouvernement au Canada. Le Canada a rompu ses relations diplomatiques avec l'Iran et fermé son ambassade à Téhéran dans une décision surprise en 2012, alléguant diverses raisons, dont et notamment le soutien de l'Iran à la Syrie, ses activités nucléaires et les menaces présumées contre le régime israélien. Le Canada est un suiviste des États-Unis dans sa politique étrangère.
Bonjour à tous, bienvenue ici dans les studios de Presse TV, dans la capitale iranienne, Téhéran. Aujourd'hui, pour notre débat, nous vous proposons de nouveau le sujet de la Palestine. En voyant les dernières actions qui se sont passées ces dernières semaines, il est grand temps également d'en parler. Aujourd'hui, plus que jamais, certainement la résistance doit rester unie, c'est le sujet du jour. Je vous propose tout d'abord, comme le veut le format, débat, donc un reportage qui vous fera le point sur les dernières actions, les activités de la résistance palestinienne, notamment ici à Téhéran. Tout d'abord, je vous propose donc notre reportage. A tout de suite.
Le leader de la révolution islamique d'Iran, l'honorable Ayatollah Khamenei, a déclaré que la bataille des jeunes palestiniens contre l'occupation israélienne annonce la victoire finale et un brillant avenir pour leur pays. L'ayatollah Sayyed Ali Khamenei a fait cette remarque lors d'une rencontre avec le chef du mouvement de la résistance islamique de la Palestine Hamas, Ismail Haniyeh, en visite à Téhéran. Le guide suprême a dit à Haniyeh que le régime sioniste n'avait pas réussi à semer la discorde et à créer des divisions entre les groupes de la résistance palestinienne, soulignant l'importance d'une unité et d'une coordination renforcée entre tous les groupes de résistance. Le leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, a déclaré « Au cours de la récente bataille de Gaza, nous avons été témoins des tentatives de l'ennemi de semer la discorde et les divisions parmi les groupes de résistance. Cependant, par la grâce de Dieu, leurs efforts ont été vains. Par conséquent, nous devrions nous concentrer davantage sur la question de l'unité et de la coordination et suivre ce droit chemin avec force », a-t-il ajouté. Il a souligné l'importance de l'unité entre toutes les factions, affirmant que l'ennemi sioniste sera mis à genoux en Cisjordanie occupée. L'ayatollah Khamenei a également réitéré le soutien indéfectible de l'Iran à la cause palestinienne. Le chef du Hamas a pour sa part décrit Gaza comme le cœur palpitant de la résistance. Il a déclaré que les groupes palestiniens ne se retireraient même pas d'un pouce de leur terre. Qui aurait jamais imaginé qu'un jour, les jeunes palestiniens de Jenin pourraient serrer l'étau sur les troupes sionistes au point de les obliger à utiliser des avions de combat pour briser le siège des jeunes combattants. mais cela s'est produit il y a quelques jours à Jenin. Encore noté, le leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, a affirmé qu'en dépit de toutes les pressions, la communauté internationale était aux côtés du peuple palestinien. Ismaïl Haniyeh a également affirmé que le combat se poursuivra jusqu'à la libération définitive de la sainte ville occupée de Rots et de la mosquée Al-Aqsa.
Nous revoilà donc dans les studios. Nous faisons donc venir d'abord notre premier invité, M. Ahmad Rami, donc président de Radio Islam. Bonjour M. Rami, ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui.
Merci, bonjour, bienvenue. Mais je dis bonjour aussi à tous vos auditeurs.
Merci beaucoup. Alors le sujet, comme vous l'avez compris, aujourd'hui étant la Palestine, différentes actions depuis le début de l'année 2023 ont été réalisées par la résistance palestinienne suite à des actions criminelles de l'entité sioniste. L'honorable Ayatollah Saïd Khamenei a lui-même indiqué l'importance de l'unité de la résistance. Qu'en pensez-vous, monsieur Rami?
Mais Ayatollah Khamenei a exprimé le sentiment de toute la nation islamique et de toute l'humanité d'ailleurs, car ce qui se passe, la bataille qui se passe aujourd'hui en Palestine, c'est une bataille qui va décider de l'avenir de toute l'humanité, parce que c'est une bataille en Palestine contre l'injustice, contre le racisme, contre l'apartheid, contre la domination, contre la loi de la jungle. Et ce sont des problèmes et des principes qui concernent toute l'humanité, en fait. Et aujourd'hui, toute l'humanité réagit directement quand il s'agit d'autres questions, mais pas quand il s'agit de la Palestine, car la Palestine, aujourd'hui, est devenu le théâtre et le champ où va se décider en réalité la destinée de toute l'humanité et la position de la République islamique d'Iran est un exemple à suivre par toute l'humanité, par tous les pays, surtout par les pays musulmans et les pays arabes, parce que ce combat, comme j'ai dit, de toute l'humanité et surtout de la nation islamique.
Merci,
et
monsieur.
Il faut savoir comme.
Oui. Merci, monsieur Rami. Alors, pour rappeler à nos auditeurs, depuis 2023, le début de 2023, mais ça avait déjà commencé en 2022, plusieurs fois dans les semaines écoulées, beaucoup de Palestiniens sont morts des mains de l'entité sioniste, souvent des civils, souvent également des enfants et des femmes. Est-ce que certains disent que c'est dans le but de fragmenter la résistance palestinienne? Qu'en pensez-vous? Est-ce que ça fait plutôt le côté inverse, c'est-à-dire la résistance a encore plus de raisons de résister?
Il faut savoir que l'entité sioniste qui occupe la Palestine aujourd'hui se fonde sur la loi de la jungle, le principe de la loi de la jungle, la loi du plus fort. Et la force de l'entité sioniste occupante, c'est la division des Palestiniens, la division des musulmans, la division et la faiblesse de toute la nation islamique. Et c'est pour cela que toute unité et tout rassemblement entre tous les victimes de l'entité sioniste, ça sera une faiblesse pour l'entité sioniste. C'est pour cela que l'entité sioniste a très peur de cette unité, de l'unité de la nation islamique, l'unité de la résistance, l'unité de la résistance, que ce soit à l'intérieur de la Palestine ou à l'extérieur de la Palestine. Et il faut savoir aussi que les États-Unis sont occupés, comme je l'ai toujours dit, la France est occupée, tous les pays, grands pays sont occupés par le lobby sioniste israélien, et que qu'il faut d'abord libérer la Palestine pour que les États-Unis eux-mêmes soient libérés de ce lobby sioniste qui occupe, disons, grands pays. Les Arabes musulmans sont aujourd'hui, à part la République islamique d'Iran, le Hezbollah, la Syrie et le Liban, eh bien, tout est occupé, tous les pays sont occupés par le lobby sioniste. Occupés politiquement, la Palestine est occupée militairement, mais le reste du monde arabe est occupé politiquement, et le reste aussi du monde entier. Parce que, comme j'ai dit, les grandes puissances aujourd'hui sont occupées par Israël, par des lobbies qui occupent à partir de l'intérieur, politiquement, médiatiquement, économiquement, idéologiquement, tous ces pays sont occupés. Il faut le savoir aussi, il faut, disons, éveiller les gens sur ce problème. C'est un problème parce que l'entité sioniste veut diviser les musulmans, diviser l'arbre, diviser toute l'humanité, parce qu'elle a peur de l'unité de la résistance contre l'occupation sioniste qui occupe aujourd'hui la Palestine.
Merci, Monsieur Rami. Alors, tout de suite, nous allons accueillir notre deuxième invité, qui est aujourd'hui Monsieur Bernard Cornu. Bonjour, Monsieur Cornu. Ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui. Ah, notre invité n'est pas encore joignable. Alors, Monsieur Armat Rami, que pensez-vous ? Est-ce que la résistance va pouvoir faire face ? Parce que c'est quand même de longues années, 70 ans, hein, plus de 70 ans de résistance, plus de 70 ans sans répit pour les Palestiniens, pour la Cisjordanie. On voit les jeunes de Jenin qui sont devenus un peu le porte-drapeau de cette résistance ces derniers temps. Vouloir mettre fin à cette occupation sioniste. Qu'en pensez-vous ? Est-ce qu'ils vont pouvoir être ce porte-drapeau au vu des dernières circonstances ?
C'est une loi, disons, une loi éternelle dans toute l'humanité, dans toute l'histoire de l'humanité, que la résistance engendre, provoque, c'est-à-dire l'occupation engendre et provoque la résistance. Parce que les Palestiniens aujourd'hui n'ont pas d'autre choix, n'ont pas d'autre voie que de résister. Cette occupation leur est imposée, donc la résistance aussi doit être disons, un résultat de cette occupation. Alors, la République islamique d'Iran est aujourd'hui, en réalité, le seul pays dans le monde, le seul grand pays, État, qu'aujourd'hui a une position juste, une position qui doit être en réalité la position de toute l'humanité, de tous les pays arabes et musulmans. Et aujourd'hui, ça arrive depuis la révolution islamique, dirigée au début par l'Ayatollah Khomeini. Cette révolution continue de diriger, de soutenir cette résistance. Et il faut dire que l'entité sioniste n'a pas réussi.
Merci, Monsieur Rami. Alors, nous accueillons notre deuxième invité. Merci beaucoup, Monsieur Rami. Nous accueillons donc notre deuxième invité, Monsieur Bernard Cornu, donc écrivain et politologue. Bonjour, Monsieur Cornu. Ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui.
Bonjour.
Alors, la question du jour est donc la question de la Palestine, notamment la visite de plusieurs résistances palestiniennes à Téhéran entre la semaine dernière et cette semaine, visite qui s'est présentée également face à l'honorable Ayatollah Sayyed Khamenei. Monsieur Cornu, une des choses indiquées par l'Ayatollah Sayyed Khamenei a été le fait de montrer que la résistance devait rester unie, avec pour centre Gaza, notamment concernant la résistance palestinienne. Nous avons vu également la Cisjordanie, Jenin, Naplouse résister en même temps sans laisser tomber donc Gaza. Est-ce que cette résistance va pouvoir tenir et cette unification va pouvoir tenir?
Espérons-le. Hein. C'est vrai que c'est de la résistance, ce n'est pas du terrorisme. Il faut rappeler aussi que le Hamas qui a pris le contrôle de Gaza par un processus démocratique, après les élections, dit qu'il ne fera des attaques armées que sur le territoire occupé par Israël, c'est-à-dire sur le territoire de la Palestine historique, la Palestine du mandat britannique. Donc il faut bien montrer que ceci, rappeler que ceci est de la résistance et que l'occupation, comme l'avait dit déjà le président français, le général de Gaulle, en novembre 1967, il avait dit que Israël organise le territoire dont il a pris l'occupation, ça ne peut être sans oppression, sans répression, sans expulsion, et qu'il manifeste aujourd'hui la résistance, à son tour, l'occupant qualifie de terrorisme. Donc vous voyez, ce langage de terrorisme mal défini, il faut le rejeter, c'est de la résistance qui est forcément violente parce qu'il y a aussi de la violence de l'occupant. Et chaque fois, les Palestiniens réagissent quand ils voient leurs compagnons et des civils tomber sous les balles, sous les missiles lancés par des hélicoptères, comme ça a été fait récemment à Jenin. Il faut dire que c'est une occupation et donc une résistance qui est logique, comme l'a reconnu un président français. On aimerait bien que l'actuel président français se mobilise beaucoup plus pour protester contre cette occupation et non seulement dénoncer les actes de violence, mais dénoncer ceux qui les génèrent, c'est-à-dire l'occupation.
Merci,
la première
Cornu.
Violence, c'est l'occupation, le premier droit, la résistance.
Merci, Monsieur Cornu. Alors, on a vu l'ayatollah Sayyid Khamenei a rappelé que la République islamique d'Iran a toujours soutenu la cause palestinienne dans le temps, aujourd'hui comme hier, et ainsi que comme dans le futur. Est-ce que c'est un message important, un message qui est indiqué à qui, qui est réservé à qui, selon vous?
Ce soutien est nécessaire parce que sur l'occupation, avec le blocus posé à Gaza depuis très longtemps, il est difficile à la population de tenir. Elle a besoin d'un soutien financier, elle a besoin de pouvoir s'approvisionner en produits, s'approvisionner aussi en armes avec les moyens qu'elle peut avoir de certains pays, et non seulement l'Iran, mais on sait aussi que le Qatar a beaucoup aidé les gens de Gaza et les autorités contrôlent Gaza, c'est-à-dire le Hamas. L'Union européenne aussi aide, mais surtout la Cisjordanie, pour des raisons politiques qui sont non injustifiées, puisque la répartition des pouvoirs est due à des élections qui ont été démocratiquement menées et contrôlées. En 2006. Donc il faudrait que l'Europe aide beaucoup plus l'ensemble palestinien, surtout il faudrait qu'au niveau des Nations Unies, au niveau de l'Europe, il y ait beaucoup plus de répression, de sanctions envers les Israéliens qui maintiennent cette occupation, qui poursuivent l'expulsion des colonies contre tout droit international.
Merci, Merci, Monsieur Cornu. Monsieur Ahmad Rami, alors vous travaillez pour une radio, hein, je vous rappelle, directeur de Radio Islam. Malheureusement, sauf certaines chaînes pro-résistance ou tout simplement pro-résistance palestinienne, très peu d'actualités internationales s'expriment sur le nombre de morts par semaine des Palestiniens. Vous l'expliquez ça comment, vous-même travaillant pour une radio?
Oui, il faut savoir ce qui se passe. La résistance, l'occupation mène au...
Il semblerait que nous ayons perdu M. Rami. Alors, nous revenons vers notre deuxième invité, Monsieur Cornu. Monsieur Cornu, est-ce comment vous voyez, donc, on attend une répercussion de toutes les attaques israéliennes par la résistance palestinienne. Certains disent que cette résistance palestinienne va mettre au point une stratégie commune. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que le fait que la résistance soit encore extrêmement calme face au terrorisme israélien, est-ce que c'est sur du long terme, on risque de voir une réponse unie entre la Syrie, le Liban et la résistance palestinienne?
Et bien sûr, comme j'ai rappelé, Hamas avait pris le pouvoir politique à Gaza, mais en fait, dans la Cisjordanie, il y a beaucoup de gens, de civils palestiniens et d'organisations qui sont favorables à la politique de résistance du Hamas et qui sont défavorables à la politique de collaboration qui a été mise en place après les accords d'Oslo et dans lequel le vieux dirigeant palestinien cède beaucoup trop facilement aux demandes israéliennes pour cette collaboration. Même récemment, la police palestinienne de Cisjordanie a contribué malheureusement à arrêter certains résistants palestiniens à cause de cette forme de collaboration. Donc, il serait temps qu'il y ait des élections et probablement les tendances proches du Hamas reprendront certainement le pouvoir dans l'ensemble de la Cisjordanie et de Gaza pour définir une politique beaucoup plus unifiée, une politique de résistance, une politique qui refuse la punition actuelle et qui fasse dans sa politique étrangère beaucoup plus appel nation extérieure dans la nation développée par notre masse depuis longtemps pour pouvoir fléchir les politiques des Nations Unies, les politiques de l'Europe et non pas et le Hamas n'a plus à être considéré comme un pariah, n'avoir plus de contact avec l'Europe, ce qui est très démontable et ce qui explique pourquoi cette résistance est très peu évoquée dans nos médias en Europe. C'est vrai que le conflit est ancien, les gens sont lassés, et surtout comme les gens ne voient pas de solution puisque l'Europe n'élève pas la voix, le Conseil de sécurité n'élève pas la voix contre l'occupation, les gens ne pensent pas qu'il y ait une solution, à part ceux qui sont très militants, très informés, toutes les associations qui sont en France sont d'ailleurs très favorables à des actions beaucoup plus fermes envers l'État israélien, par la promotion du boycott du BDS et par d'autres actions. Juste hier, par exemple, le franco-palestinien et avocat Salah Abouli a fait une conférence à Lyon. La mairie essayait de l'interdire en disant que ça pourrait provoquer des désordres. Les associations sont allées devant la justice pour demander ce qu'on appelle référé. Et la manifestation, la conférence de Salah Abouli a été autorisée. Donc il y a en France une position générale de la population favorable à l'application du droit dans les territoires occupés beaucoup plus fermes, donc contre l'État israélien. Et notre politique, nos députés, sont en arrêt de ces positions parce que dans l'élection, malheureusement, on ne débat pas du problème palestinien, ni dans les élections des députés, ni dans les élections présidentielles. Donc il faut imposer ce sujet au moment des élections pour que beaucoup plus d'élus comprennent que notre population française, et je compte c'est général aussi en Europe, est favorable à un règlement juste du vieux conflit entre Israël et les Palestiniens, entre Israël et les Arabes, puisque Israël occupe aussi encore des parties de la Syrie.
Et qu'est-ce que vous pensez des jeunes groupes de résistance comme ceux à Jenin qui contre-attaquent sans même l'avis des autres gros groupes de résistance qui existent depuis plus longtemps? Est-ce que ça veut dire que même la voie palestinienne, même la voie de la résistance palestinienne est en train de changer?
Mais tout à fait, face à un gouvernement, un nouveau gouvernement dirigé encore une fois par Netanyahou, qui a fait entrer pour pouvoir être élu des ministres de l'extrême droite, des ministres racistes, qui ne sont pas les bienvenus en Europe d'ailleurs, à cause de leur position extrémiste. Les jeunes palestiniens, sans perspective d'avenir, sans voir des solutions qui leur permettent de développer, ne voient que l'action violente ou l'exil et par la littérature. C'est ce désespoir qui génère cette tentation de violence face à l'occupation.
Merci, Monsieur Bernard Cornu. Je rappelle donc Monsieur Bernard Cornu, géopoliticien et écrivain. Notre deuxième invité étant Monsieur Ahmad Rami, directeur de Radio Islam. C'est là que se finit donc notre débat d'aujourd'hui, qui concernait la résistance palestinienne et la venue de groupes de résistance entre la semaine dernière et cette semaine, et leur visite auprès de l'ayatollah Saïd Khamenei, ainsi que bien entendu de leur unification dans la résistance. C'est ici donc se finit le débat. N'hésitez pas à le voir ou à le revoir sur notre site internet, ou tout simplement laissez-nous un commentaire. Je vous dis à la prochaine fois pour un autre sujet du débat ici dans les studios de Presse TV dans la capitale iranienne, Téhéran. Au revoir.
Mesdames et messieurs, chers auditeurs et auditrices, bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission qui porte sur les manifestations en France après la mort d'un adolescent de 17 ans tué par un policier dans le cadre d'un refus d'obtempérer. Police partout, justice nulle part, des affrontements ont éclaté à Nanterre après la mort d'un adolescent de 17 ans par la police française. Ce mercredi 28 juin 2023, deux unités de forces mobiles ont été déployées à Nanterre pour la nuit après la mort d'un adolescent de 17 ans tué par un policier dans le cadre d'un refus d'obtempérer. 20 personnes ont été interpellées mardi 27 juin en début de soirée lors de tensions avec les forces de l'ordre déployées dans la ville, quelques heures après qu'un adolescent de 17 ans a été tué par un policier, annonce la préfecture de police. Deux unités de force mobiles, dont des membres de la CRS, ont été déployées à Nanterre pour la nuit, ajoutait le ministère de l'Intérieur, interrogé par l'AFP. Le policier soupçonné d'avoir tué l'adolescent de 17 ans a été placé en garde à vue pour homicide volontaire. Les faits ont eu lieu vers 8h30 près de la station de RER Nanterre-Préfecture, au bord de la place Nelson Mandela, derrière le quartier d'affaires de la Défense. Une vidéo circulant sur Twitter mardi, authentifiée par l'AFP, montre deux policiers contrôlant une voiture jaune. L'un des policiers, debout, accoudé sur le pare-brise, tient le conducteur en joue avec son pistolet. Quand le conducteur redémarre, le policier tire à bout portant depuis le côté du véhicule. La voiture a fini sa course quelques dizaines de mètres plus loin, encastré dans un poteau. La victime, Naël, 17 ans, est morte peu de temps après avoir été atteinte malgré l'intervention du SAMU. La mort de l'adolescent et ses circonstances ont suscité émotion et colère à Nanterre, ville populaire de l'ouest parisien où il habitait. En début de soirée, des tensions ont éclaté entre habitants et forces de l'ordre dans le quartier du Vieux-Pont, ont constaté des journalistes de l'AFP. 20 personnes ont été interpellées selon un bilan de la préfecture vers 3 heures. La préfecture du département a fait état de mouvements sporadiques dans plusieurs quartiers, ajoutant que des événements se poursuivaient même si leur intensité baissait. De nombreux feux illuminaient les rues de la cité Pablo Picasso, où une voiture a brûlé selon l'AFP. Sur place, les forces de l'ordre tentaient de disperser de petits groupes de manifestants avec des gaz lacrymogènes. si la préfecture de police assurait que la situation était contenue peu avant minuit, les tensions se sont poursuivies, se propageant dans d'autres communes de la région parisienne. À Nanterre, des fusées d'artifice ont été tirées à proximité de la préfecture. Un incendie s'est déclaré dans une école de musique sur laquelle les pompiers sont rapidement intervenus. Des feux ont été allumés le long des rails du RER A entre Nanterre et Rueil-Malmaison. Plusieurs voitures ont été incendiées ainsi que des poubelles et des abribus ont été détruits. Des manifestants ont dressé quelques barricades. Après la mort de Naël, 17 ans, une enquête a été ouverte pour refus d'obtempérer et tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. Une autre enquête ouverte pour homicide volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique a été confiée à l'Inspection générale de la police nationale. Le policier soupçonné du tir mortel âgé de 38 ans a été placé en garde à vue pour homicide volontaire. L'avocat de la famille de la victime, Yacine Bouzrou, a annoncé deux plaintes ces prochains jours. L'une visera l'auteur du tir pour homicide volontaire et son collègue pour complicité. Une seconde plainte pour faux en écriture publique sera déposée à l'encontre des policiers qui ont affirmé que l'adolescent avait tenté de commettre un homicide sur leur personne en tentant de les percuter, ce qui est formellement démenti par le visionnage de la vidéo, a annoncé l'avocat. Le maire DVG de Nanterre, Patrick Jarry, s'est dit choqué par la vidéo du drame qui a été largement commentée à gauche. La peine de mort n'existe plus en France. Aucun policier n'a le droit de tuer, sauf légitime défense, a écrit sur Twitter le leader de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon, estimant que la police devait être entièrement refondée. À l'Assemblée nationale, le ministre de l'Intérieur Gérard Darmanin a parlé d'images extrêmement choquantes. Qu'une justice digne de ce nom honore la mémoire de cet enfant, a tweeté l'acteur Omar Sy. En 2022, 13 décès ont été enregistrés en France après des refus d'obtempérer lors de contrôles routiers, ce qui est un record. Ce mercredi 28 juin, après une nuit marquée par divers incidents en banlieue parisienne, la présidente de l'Assemblée nationale s'est dit prête à revoir le cadre d'emploi fixé par la loi dite « sécurité publique » votée en 2017. Par ailleurs, Marine Tondelier, secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, a dénoncé lors d'une interview accordée à Sud Radio une américanisation de la police française. Madame Tondelier a déclaré « Il y a du racisme dans la société et dans la police. Pas tous les policiers, mais je n'ai jamais vu un non-racisé se faire tuer pour un refus d'obtempérer. » Ce mercredi 28 juin, Yacine Bouzrou, avocat de la famille de l'adolescent tué la veille à Nanterre par un tir de police en raison d'un refus d'obtempérer, a déclaré que l'homicide volontaire existe effectivement dans ce dossier et il n'y a pas de légitime défense. C'est une affaire extrêmement grave, a-t-il ajouté devant les journalistes. Il a par ailleurs déclaré que seule une application stricte de la loi permettra à la situation de s'apaiser. La mort de l'adolescent a provoqué une vague de violence en région parisienne qui se sont étendues à plusieurs autres villes de France. Dans ce contexte, la marche blanche en hommage à Naël s'est élancée jeudi depuis la cité Pablo Picasso à Nanterre, au cri de « Justice pour Naël » et « Plus jamais ça » ont constaté des journalistes de l'AFP. pas de justice, pas de paix, et tout le monde déteste la police, scandaient aussi les manifestants. Certains portaient des pancartes « La police tue » ou « Combien de Naël n'ont pas été filmés » ou encore « Nos vies sont en danger ».